Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant en partenariat avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé sera présidé et animé par le pasteur Lionel Tambon, aumônier protestant au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bienvenue à toutes et à tous pour ce moment de culte, ce moment de respiration. Jésus, vous savez, dans le Nouveau Testament, disait régulièrement à ses disciples « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Eh bien, le culte, c'est cela, chaque fois à nouveau. Un temps de désert, c'est-à-dire un temps où l'on consent à se vider de tout ce qui nous encombre, tout ce qui fait déborder nos vies. Un temps où l'on a soif et faim d'une parole nouvelle. Le culte est, chaque fois, à nouveau, un temps de repos pour se refaire des forces, un temps pour se renouveler en secret, pour se retrouver en vérité. Temps de grâce et d'attente, d'interpellation et de respiration auquel Dieu lui-même nous invite. Le Seigneur nous accueille, chacun, chacune, en ce temps de culte. La paix du Père, l'amour du Fils, la consolation de l'Esprit nous sont offerts pour que nous vivions ce culte, le cœur au repos et l'esprit apaisé. Et je vous invite à écouter un premier cantique, c'est vers toi que je me tourne. Je vous invite à nous retrouver dans la prière pour commencer ce culte. Mon Dieu, aujourd'hui j'aimerais te dire ma joie de te savoir à mes côtés. Tu es un marcheur infatigable qui me suit dans les méandres de ma vie. Évidemment, parfois, lorsque les jours se font sombres, lorsque les nuages s'amoncellent et que la tempête fait rage, j'ai plus de mal à t'entendre et à discerner la présence ta présence à mes côtés. Je peux parfois alors être tenté par le repli sur moi. Et pourtant, toi tu es là, et tu as mille façons de me faire signe au travers de celles et ceux que tu me donnes de rencontrer, par exemple. Un regard, un sourire, une main tendue, tu es là. Chemin faisant sur les sentiers de mon existence, je vois comme une promesse, toujours, quoi qu'il advienne, les traces de tes pas mêlées aux miens. Amen. Et je vous invite à écouter le cantique « Seigneur, je me confie ». Alors, je vous invite aujourd'hui à méditer trois passages bibliques pour notre recueillement. Le premier se situe dans la première lettre que Paul a envoyée aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 10 à 17. Voici ce que Paul écrit. « Je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez tous d'accord et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans un même esprit et dans une même pensée. En effet, mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des discordes parmi vous. Je m'explique. Chacun de vous parle ainsi. Moi, j'appartiens à Paul, moi à Apollos, moi à Pierre, moi à Christ. Le Christ est-il divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Dieu merci, je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, nul ne peut dire que vous avez été baptisé en mon nom. Ah si, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, je n'ai baptisé personne d'autre que je sache. Car Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'Évangile, et sans recourir à la sagesse du discours, pour ne pas réduire à néant la croix du Christ. » Ensuite, dans la lettre que Paul a envoyée aux Galates, au chapitre 3, les versets 26 à 28. C'est une petite perle, ce passage. « Tous, vous êtes par la foi, écrit Paul, fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Et enfin, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, les versets 20 à 26. C'est Jésus qui parle et qui prie. « Je ne prie pas seulement pour eux. Je prie aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Père juste, tandis que le monde ne t'a pas connu, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Je vous invite à écouter le cantique « Ô, prends mon âme ». La lettre de Paul aux Corinthiens a notamment pour thème la fraternité. Elle commence ainsi : « Je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez tous d'accord et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans un même esprit et dans une même pensée. » Et tout de suite, Paul enchaîne : « On m'a appris qu'il y a des discordes parmi vous. » Le constat est donc net, aussi belle et nécessaire soit-elle, la fraternité est une réalité bien difficile à vivre. Ce qui est surprenant, c'est que c'est souvent avec les plus proches qu'on a le plus de difficultés à s'entendre. Comme si, vous savez, la proximité révélait plus facilement les différences et les rendait insupportables. Cela se voit dans les conflits entre peuples voisins, je vous laisse vous-même en faire la liste. Cela se vit dans nos familles, où des blessures d'incompréhension et des silences prolongés creusent des fossés d'amertume. La Bible ne cesse de nous alerter sur cette douloureuse ambivalence du lien fraternel, depuis les premiers chapitres de la Genèse, avec, souvenez-vous, Caïn et Abel, puis avec Jacob et Ésaü, Isaac également et Ismaël, et puis évidemment Joseph et ses frères et j'en passe. Et cela, eh bien, jusqu'au Nouveau Testament, et Paul qui observe que dans la petite église chrétienne de la ville de Corinthe, entre frères non pas de sang mais frères de foi, eh bien déjà, des clans se forment. Certains se réclament de Paul, d'autres d'Apollos, d'autres encore de Pierre. Cela ferait presque sourire si, étrangement, ça ne ressemblait à beaucoup de nos divisions contemporaines où chaque nuance théologique, chaque style liturgique, chaque façon de vivre l'Église devient parfois prétexte à une séparation. Il n'y a qu'à voir la multitude d'églises différentes au sein même de notre protestantisme et l'embarras que nous ressentons lorsque nous devons expliquer cette diversité à ceux qui découvrent le protestantisme. On s'y perd même nous-mêmes. Mais peut-être, la diversité n'est-elle pas au fond le problème ? Peut-être cette diversité est-elle même naturelle, car nous sommes toutes et tous différents, et évidemment, nous éprouvons le besoin de vivre l'Église de manière différente. Les Églises peuvent être vues comme autant d'outils dont Dieu se sert pour venir nous rejoindre avec une modalité et un langage qui nous parlent. Peut-être le problème est-il plutôt dans la tendance humaine à faire régulièrement de cette diversité un mur de séparation. Et ces questions qui nous travaillent. Pourquoi, alors qu'elle est tant désirée, la fraternité est-elle si difficile à vivre ? Pourquoi la différence, pourtant si riche, devient-elle source de peur ou d'exclusion ? Et pourtant, malgré tout, des gestes de fraternité persistent, émergent et étonnent. Pourtant, il y a ici ou là des hommes et des femmes qui tendent la main, qui construisent des ponts, qui refusent les murs. Pourtant, la fraternité et cette espérance qui ne cesse de nous travailler. Et nous constatons que cette fraternité humaine, aussi fragile soit-elle, reste un levier puissant de transformation sociale et spirituelle. Alors, cette question que Paul adresse aux Corinthiens d'hier comme d'aujourd'hui. Peut-on, je vous le demande, se considérer comme frères et sœurs, tout en exprimant et en pratiquant notre foi différemment ? Dans sa lettre aux Galates, Paul va plus loin encore. Il écrit « Vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Paul ne nie pas les différences. Il ne dit pas que tout est identique. Il dit qu'à hauteur de Dieu, toutes les distinctions humaines perdent leur prétention à venir nous définir. Devant Dieu, il n'y a pas d'étiquette, pas de statut, pas de hiérarchie sociale, culturelle ou religieuse. Toutes nos identités restent présentes, mais aucune ne nous rend plus ou moins proche de Dieu. Et cela change tout. Cela signifie que notre unité ne dépend pas de notre appartenance à un club ou à un clan. Notre unité nous vient d'ailleurs, elle nous vient de plus haut et elle nous précède. Dans l'évangile de Jean, Jésus prie pour ses disciples. Il dit « Que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'il soit un comme nous sommes un. » L'unité dont parle Jésus n'est pas une performance humaine. Elle n'est pas fabriquée à la force de nos compromis ou de nos consensus. L'unité est déjà donnée. C'est une unité qui se situe en Dieu et dans laquelle nous sommes invités à entrer. Notre rôle n'est donc pas de créer l'unité. Notre rôle est de l'accueillir et de la vivre. C'est ce à quoi nous éveille le fait d'appeler Dieu Père. Si nous sommes toutes et tous enfants d'un même Père, ça nous conduit nécessairement à nous considérer mutuellement frères et sœurs, par-delà nos difficultés parfois à nous comprendre. C'est cela, vivre de la foi. Appeler Dieu Père et donc accepter que les autres soient nos frères, nos sœurs, non parce que nous les avons choisis, mais parce qu'ils nous sont donnés, voire même imposés si par moments ils nous agacent. Alors oui, la fraternité est difficile. Oui, elle nous expose à la différence, à la remise en question, à l'amertume parfois et au pardon. Mais elle est aussi une grâce et un don. Dans chacune de nos relations, familiale, ecclésiale, sociale, et pourquoi pas internationale, entre pays rivaux et cependant tellement proches. Dans tous ces lieux, nous sommes appelés à être les témoins d'une unité déjà offerte. Non pas une unité de surface, mais une unité profonde, nourrie de notre foi et pétrie d'évangile. L'Esprit du Christ nous donnera de vivre cette fraternité avec humilité, avec espérance, avec amour et avec foi. Amen. Et je vous invite à écouter le cantique « Il fait toute chose nouvelle ».
Toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour toi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour toi. Plus de cris, plus de larmes, plus de mort, plus de deuil, plus de plaintes, plus de mal, toutes choses nouvelles pour moi. Toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour toi. Plus de nuit, plus d'angoisse, plus de haine, plus de guerre. Toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour toi. Pour toi.
Nous nous retrouvons à présent dans la prière d'intercession, la prière les uns pour les autres, et nous la terminerons, si vous le souhaitez, en disant ensemble la prière du Notre Père. Seigneur, tu connais les méandres de nos vies, si extraordinairement diversifiées. Tu n'ignores rien des chemins de traverse sur lesquels nous nous perdons parfois. Aide-nous, Seigneur, à diriger notre vie selon ton amour. Aide-nous à produire des actes d'ouverture. Élargis l'espace de nos vies. Donne-nous un cœur assez désintéressé de lui-même pour que beaucoup puissent y trouver leur place. Creuse en nous le désir d'accueillir les êtres et les événements qui surviennent sur nos chemins, de chanter avec ceux qui rient, de pleurer avec ceux qui souffrent, de songer avec ceux qui rêvent, de crier avec ceux qui protestent, de dire oui avec ceux qui construisent, de dire non avec ceux qui résistent, d'agir avec ceux qui transforment. Réveille en nous, Seigneur, l'ardente conscience d'une foi vécue concrètement au milieu du monde, au service des hommes et des femmes de ce temps, des hommes et des femmes que nous accueillons comme des frères et des sœurs en humanité. Nos cœurs se peuplent de noms et de visages, de projets de vie. Nous voulons tous les réunir devant toi en te disant cette prière que Jésus le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, à l'issue de ce culte, recevez la bénédiction de Dieu dans votre vie, dans votre cœur. Que la présence de Dieu, qui se laisse trouver dans la simplicité du quotidien, vous accompagne tout au long de vos jours. Qu'elle soit votre réconfort et votre guide. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Et nous terminons ce culte en écoutant le cantique « Magnifique est le Seigneur ».
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir du site internet de cette église, nimes-église-protestante-unie.fr ou en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été animé par le pasteur Lionel Tambon, aumônier protestant au Centre hospitalier universitaire de Nîmes. Restez à notre écoute pour la suite de nos programmes.